Excusez-moi. Alors, nous allons donc reprendre ce septième cours consacré à la septième anthologie impériale de l'époque de Heian, le Senzai Wakashu, que j'ai traduit par l'anthologie millénaire. Nous avons vu lors des deux derniers cours l'articulation de la rubrique des dieux, Jingika, Jingibu, et de la rubrique bouddhisme, Shakkyo, Shakkyoka, Shakkyobu, au sein du 20e livre du Goshu-Ishu, le second livre des glanures poétiques, la seconde anthologie, qui était la quatrième anthologie poétique impériale. Bien que ce ne fussent pas encore deux livres indépendants dans le recueil, le Jingi et le Shakkyo, il était pourtant clair que c'était la première fois que s'élaborait ainsi une claire distinction entre les deux religions, si l'on peut dire, les deux doctrines, les deux obédiences, les deux voies, le Shinto et le bouddhisme. Mais nous avons vu, et je l'espère démontrer, que cette claire distinction n'était que de surface, car les deux voies se présentent en fait dans un rapport intime d'interdépendance, dont la première attestation sans équivoque est certes dans le poème de Fujiwara no Tokifusa, lu au dernier cours dans le Goshu-Ishu. Vous vous souvenez de ce poème dont le vers central était « Atotarete », faisant descendre des traces, donc une claire lecture japonaise de Suijaku, de Honji Suijaku, la base originelle et les traces descendues, qui indique donc le rapport de dépendance entre les dieux et les Bouddhas Bodhisattvas. Mais nous avons vu aussi qu'un poème du moine Egyo, recueilli dans le recueil précédent, le Shuishu, y faisait déjà indirectement allusion. On trouve cette allusion dans les commentaires de plus ou moins contemporains. L'ordre chronologique aurait voulu que j'aborde dans ce cours les deux recueils officiels suivants, qui sont, vous le rappelez, le Kinyoshu, l'anthologie des feuilles d'or de 1127, et le Shikashu, l'anthologie des fleurs rhétoriques de 1151. Les deux ne comportent que 10 livres, les feuilles d'or ne contenant que 716 poèmes furent compilés, encore une fois, sur l'ordre de l'empereur retiré Shirakawa, donc, qui avait fait le Goshu-Ishu, et compilés par Minamoto no Shunbai. Je n'ai pas mis les noms ici. Donc Minamoto no Shunbai ou Toshiyori, 1055-1129, dont nous avions vu qu'il n'avait guère apprécié les choix de Fujiwara no Michitoshi pour la seconde anthologie des glanures poétiques. Nous en avions parlé la dernière fois, Minamoto no Shunbai ayant écrit une critique de ce recueil à laquelle Michitoshi avait répondu dans un autre ouvrage. On sait que l'entreprise fut mouvementée pour le Kinyoshu, l'empereur n'appréciant pas les goûts peu conservateurs du poète et l'obligeant à refaire sa compilation, ce qui explique sans doute l'état semi-achevé seulement du recueil. Il en va de même pour les fleurs poétiques, le plus court des recueils impériaux, qui n'a que 411 poèmes. Vous savez que la moyenne, je vous le rappelle, c'est entre 1100 et 1400 poèmes à peu près. Compilé sous la direction de Fujiwara no Akisuke, mort en 1155, à la demande de l'empereur retiré Sutoku, il est aussi divisé en 10 livres. Les deux recueils se ressemblent beaucoup, à la fois par leur structure et le petit nombre de poèmes qu'ils comportent. Du point de vue qui nous intéresse, ils ont aussi en commun un point négatif, ou deux si l'on veut. Ils ne comportent ni rubrique des dieux, ni rubrique de la doctrine bouddhique. Ce ne sont cependant pas les poèmes à tonalité religieuse qui manquent, en particulier les poèmes bouddhiques. On ne sait pourquoi ces rubriques religieuses ont été retirées, de même que les rubriques sur les voyages et les lamentations, par exemple. Peut-être ne faut-il pas y voir une réaction consciente contre ces thèmes, mais simplement le reflet d'une certaine hâte dans la compilation. Il est en tout cas évident que les deux recueils n'apportent que peu à notre propos. C'est pourquoi je vais passer directement au septième recueil, qui est beaucoup plus important et qui mérite que l'on s'y attarde plus longuement. Le Senzai Wakashu, donc, anthologie du millénaire ou des millénaires. Et vous voyez que Senzai se lirait en lecture kun, en lecture explicative, chitose, c'est-à-dire mille ans. Et vous vous souvenez que dans les poèmes shinto en particulier, Chitose, c'est une sorte de vœu de longévité, de prospérité pour le règne impérial, pour les anniversaires, un peu comme Yorozuyo aussi, les 10 000 âges, n'est-ce pas ? Vous savez, Chitose et Yorozuyo, souvent dans les mêmes poèmes. Donc cette anthologie millénaire, après ces deux recueils atypiques, annonce un retour à la normale dans la série des anthologies impériales. Commandée dès 1183 par l'empereur retiré Go-Shirakawa, qui était l'arrière-petit-fils de Shirakawa, il est né en 1127, il régna de 1156 à 1158 et il mourut en 1192. Cette anthologie fut confiée à Fujiwara no Toshinari, que vous avez ici, 1124-1204, vous voyez qu'il a vécu très longtemps, 90 ans si je compte bien, que l'on connaît mieux sous la lecture japonaise de Shunzei. Et qui fut présent, cette anthologie fut présentée à l'empereur en 1188 ou 1187. Bon, je ne vais pas me prendre parti dans ce débat. Et Shunzei avait donc 74 ans lorsqu'il l'a présentée. Elle retrouve la structure classique des recueils antérieurs. 20 livres déroulant les quatre saisons, la séparation, le voyage, les lamentations, les célébrations, 5 livres pour les amours, 3 livres pour les miscellanées, zōkan, et avec une innovation certaine pour les deux derniers livres, cette fois, consacrés l'un à la doctrine bouddhique et l'autre aux dieux. Dans cet ordre, donc, Shakkyō d'abord, Jingi après. Les dieux closent l'ouvrage, alors que l'ordre du Goshuishu, le quatrième recueil, vous vous en souvenez, était inverse. Dieu d'abord, doctrine bouddhique ensuite. Et on va voir que le huitième recueil sur lequel nous allons conclure ce cours, le Shinkokinshu, va reprendre cet ordre ancien, c'est-à-dire qu'on va clore sur le Shakkyōka, sur le Shakkyō, la doctrine bouddhique. Le responsable de l'anthologie, Shunzei, était l'un des poètes les plus illustres de son époque. Il était également estimé comme critique littéraire et comme ce que l'on pourrait appeler théoricien de la poésie. Il est l'auteur, entre autres, enfin surtout, d'ailleurs connu pour le Kōrai Futeisho, que je vous ai mis ici, Kōrai Futeisho, que l'on peut traduire par « du style poétique dès l'Antiquité », de l'Antiquité à nos jours, rédigé en 1197 et remanié en 1201. Donc, 1197, à peu près 10 ans après la présentation à la cour du Senzaishu. C'est donc alors qu'il était déjà... Et il était entré dans la vie religieuse, Shunzei, en prenant le nom monastique de Shakua, que vous avez en dernière position ici, en 1176. C'est donc alors qu'il était déjà religieux qu'il établit la compilation de l'anthologie d'un millénaire. C'est un détail qui a son importance. Or, ce recueil est précédé d'une importante préface, écrite en japonais seulement, il n'y a pas de préface chinoise, comme dans le cas de la seconde anthologie des glanures. Cette préface est l'œuvre de Shunzei lui-même. Comparée à celle que Fujiwara no Michitoshi avait écrite pour le Goshuishu, elle apparaît, si l'on me permet ce jugement, comme beaucoup plus inspirée et tente délibérément de retrouver le souffle des préfaces anciennes, dans une certaine mesure. Vous vous souvenez que la préface de Michitoshi était très... éditorial, si j'ose dire. C'était vraiment la préface d'un chargé d'édition qui a simplement décrit le travail qu'il avait fait, sans essayer d'entrer dans de grandes considérations poético-théoriques sur l'origine de la poésie, etc., comme c'est de règle dans ces anthologies, dans ces préfaces d'anthologie. Cependant, bien qu'une dizaine d'années à peine la sépare de son traité du style poétique de l'Antiquité, le Kōrai Futeishu, on y trouve de grandes différences apparentes dans sa vision de la poésie. Il est difficile de concilier les deux, du moins en s'en tenant à la surface. Mais nous pourrons peut-être en tirer quelques idées à propos de la question qui nous intéresse, à savoir la raison d'être du Livre des Dieux. Plongeons-nous donc directement dans ce texte. C'est le début de la préface, n'est-ce pas ? Ici. Donc, Yamato Mikoto no Uta. Yamato Mikoto no uta wa Chihayaburu Kamiyo yori hajimarite Nara no ha no na ni oumi ya ni hiromareri. Bon, je vous donne après le poème qui, dont la citation en direct explique la dernière phrase. Les poèmes en auguste parole du Yamato, vous voyez que ce Yamato Mikoto no uta, ont commencé à l'âge des dieux impétueux, Chihayaburu Kamiyo, et se sont étendus au palais qui doit son nom aux feuilles de chêne. Bon, passons sur le jeu de mots bien connu sur Nara, la capitale, et Nara, l'arbre, n'est-ce pas ? La Quercus glandulifera, c'est le nom poétique, donc une espèce de chêne, qui figure dans un poème du Kokinshu. Mais le poème auquel il est fait allusion, que je vous donne ici, est en même temps une sorte de résumé très très bref de l'histoire poétique japonaise. Puisque c'est un poème qui figure dans le Kokinshu, numéro 997, et il se présente comme la réponse de Funya Arisue, que vous avez ici, à la question de l'empereur Jōkan, donc qui régna de 858 à 876, vous voyez qu'on est assez loin, assez tôt dans l'histoire littéraire du Japon, puisque c'est un demi-siècle avant la compilation du Kokinshu, la question étant de savoir à quand remonte le Manyoshu. L'empereur demande au poète à quand remonte le Manyoshu, et voici la réponse du poète. Kamunazuki, Shigure furi okeru Nara no ha no nani o umi ya no furu gotozo. Furugotozo ou furukotozo, on peut prononcer. À l'époque ancienne, enfin, on estime que la prononciation la plus ancienne était sans la sonorisation, donc toujours furukoto, etc., n'est-ce pas, pour les prononciations anciennes. Et la réponse est donc, ce sont anciennes paroles du palais qui doit son nom aux rouges feuilles de chêne. J'ajoute rouge pour vous expliquer ça. Après que sont tombées les froides pluies du mois sans Dieu. Le moi sans Dieu, Kamunazuki, Kaminazuki, Kannazuki, c'est-à-dire le dixième mois de l'ancien calendrier, où les dieux sont réputés partis pour le sanctuaire de Izumo. Alors ce poème, donc, nous donne de façon indirecte le titre du Manyoshu, Ha, n'est-ce pas, la feuille, et situe le propos et Man. Man-yo, la feuille, et aussi parfois man-yo, c'est-à-dire yorozu no yo, donc furukoto, les vieilles paroles, où les furukoto est encore une fois un jeu de mots sur deux sens de koto, n'est-ce pas ? Ce sont à la fois les faits anciens, c'est-à-dire l'histoire ancienne, et koto, les paroles anciennes. Donc il situe le propos de Shunze dans la double dimension de la continuité cosmogonique et historique. À la fois les dieux d'un côté et l'âge des dieux impétueux et la plus haute période à laquelle on puisse remonter dans l'histoire de la poésie japonaise, si l'on fait bien sûr abstraction du poème de Susanoo no Mikoto qui fait allusion à l'âge des dieux. Bon, ce sont des choses dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Il accentue en outre la sacralité de la langue du Yamato en lui donnant le préfixe honorifique Mi, et en la reliant ainsi au dieu. Vous voyez que c'est Mikoto, c'est pas Kotonoha ici, c'est pas Yamato Kotoba, c'est Yamato Mikoto no uta, les poèmes dans l'auguste langue du Yamato. Laissons-le poursuivre. Alors, c'est une citation un peu longue. Tamashiki taira no miyako ni shite, Engi no hijiri no miyo ni wa kokinshu o erabare. Tenyaku no kashikoki o on toki ni wa gosenshu o atsumeta maiki. Shirakawa no miyo ni wa gosenshu o chokuse shime. Je pense que c'est goshuishu, excusez-moi, il y a une erreur aussi. C'est goshuishu o chokuse shime. Horikawa no sente wa momochi no uta o tatematsura shime maeri. Je reviendrai tout à l'heure sur ces mots. Donc, la rutilante capitale de la tranquillité, Tamashiki, Taira no Miyako. Vous voyez toujours les jeux de mots constants en japonais, n'est-ce pas ? Puisque vous avez les caractères chinois qui sont dans la tête de tout le monde, on peut jouer de n'importe quelle façon sur les lectures de ces caractères, et ça renvoie toujours à la solidité, en quelque sorte, de l'écriture chinoise. Donc, Taira no Miyako, vous voyez que c'est Heiankyo, tout simplement. Il joue sur la lecture kun, la lecture explicative de Heian. Donc, en la rutilante capitale de la tranquillité, donc à Kyoto, en l'auguste règne du saint souverain de l'ère Engi, c'est-à-dire l'empereur Daigo, qui a régné jusqu'en 930, l'année de sa mort, l'anthologie de jadis et d'aujourd'hui, le Kokinshu, fut compilée. En l'imposante époque de Tenryaku Kashikoshi, vous vous souvenez, c'est à la fois, maintenant nous connaissons plutôt sous le sens de intelligent, qui est la bonne intelligence, etc. Mais ça veut dire aussi imposant la peur, n'est-ce pas, la peur de l'autorité. Donc, on traduit parfois par osodoshi, c'est un peu fort peut-être, mais c'est l'autorité imposante. Donc, en l'imposante époque Tenryaku, qui est l'époque de l'empereur Murakami, qui a régné jusqu'en 967, ce fut l'anthologie postérieure à être rassemblée. Sous l'auguste règne de Shirakawa, fut donc ordonnée la seconde anthologie des glanures, Goshuishu, n'est-ce pas, corriger bien ce que j'ai fait ici. Et l'empereur précédent, Horikawa, fit présenter des... Alors, Momochi no Uta, on aurait tendance à lire littéralement Momo plus Chi, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des centaines et des milliers de poèmes. Et c'est vrai que c'est le sens que donnent les dictionnaires. Mais si nous verrons tout à l'heure que Momochi est aussi la lecture courante de Momo. Là, je pense qu'on peut donc traduire simplement des centaines de poèmes. Bien que ce ne soit pas indiqué par les commentateurs. Donc, fit présenter des centaines de poèmes. On s'étonne de ne pas voir mentionné ici l'empereur Kazan et l'anthologie des glanures, le Shuishu. La première explication serait que Shunze a une prévention contre les poèmes qui y sont recueillis. Mais si l'on se reporte au Korai Futeisho, où il parle de l'anthologie, il semble que ce soit l'époque et non lui-même qui a entravé sans raison la vogue de cet ouvrage. Il dit en effet dans ce Korai Futeisho, « Ainaku skoshi osare nikeru narubeshi ». Ainaku skoshi osare nikeru narubeshi. Ce recueil, sans raison apparente, Ainaku, a été osareru, n'est-ce pas, a été réprimé, mis sous le boisseau. Donc, c'est une allusion intéressante à la certaine mauvaise notoriété du Shuishu. Nous n'entrerons pas ici dans les détails. Curieusement aussi, il met auprès des anthologies impériales et après, en citant l'empereur Horikawa, le Horikawain Hyakushu, pardon, je ne l'ai pas mis, le Horikawain Hyakushu, centurie poétique faite dans l'entourage de l'empereur Horikawa, qui est mort très tôt à 29 ans en 1089, considérant ou faisant mine de considérer qu'elle est comparable à un Chokusenshu, à une anthologie impériale, en raison du rôle essentiel de l'empereur, mais aussi d'un poète pour qui Shunze avait la plus haute considération, Minamoto no Shundai, que nous avons déjà vu, Minamoto no Shundai ou Toshiyori, 1055-1129. Le fils d'un autre poète, Tsunenobu, Minamoto no Tsunenobu, que nous avons déjà vu comme critique et rival de Fujiwara no Michitoshi. Shundai fut à l'origine du complexe processus de compilation du Horikawain Hyakushu et assura ensuite la rédaction du Kinyoshu. La phrase suivante apporte une autre justification de la poésie. Oyoso, kono koto waza, wagayo no fuzoku toshite, kore o konomite, mote asobeba, nao yoyo ni nokoshi, kore o manabi, tazusa wazaru wa, omote o kaki ni shite, tate ranga gotoshi. En général, oyoso, bon, c'est difficile de traduire ce mot, c'est une sorte de formule qui résume ce que l'écrivain, l'auteur, tire de sa réflexion à chaque fois. Donc, ce que je pense, ce que je peux tirer de tout ça. Cette activité langagière, kotowaza, fait partie des mœurs de notre pays, fuzoku. Si l'on s'y adonne avec délectation, konomite, mote asobu, on laissera son nom d'âge en âge. Si, sans l'étudier, manabizu, n'est-ce pas ? Si, sans l'étudier, on en reste à l'écart, c'est comme si l'on, si l'on se tenait face à un mur. Oui, vous voyez que le, vous avez en dernière phrase une allusion à, je vais l'expliquer tout de suite, à une sentence de Confucius. Apparaît ici une autre motivation que l'espèce d'élan cosmique qui emportait Dieu, animaux et hommes vers le poème et le chant dans la préface de Tsubayuki. C'est un idéal qui nous est plus familier, celui de la recherche du renom, de la gloire perdurable. Le mur auquel Shunzei fait allusion, Kaki, c'est la haie, mais ça veut dire aussi le mur, vient d'une citation de Confucius, où il est dit que celui qui n'étudie pas le livre des Odes, et en particulier les deux premiers livres du livre des, du livre des Odes, c'est une injonction que Confucius fait à son fils, n'est-ce pas, est aussi condamné à l'immobilité que quelqu'un qu'un mur empêcherait d'avancer. Donc celui qui n'étudie pas les Odes se trouve face à un mur. Celui qui n'étudie pas les poèmes japonais se trouve dans la même situation. Mais chacun peut voir que le terme important de cette phrase est un mot sur lequel j'ai déjà plusieurs fois attiré l'attention. Kotowaza, que l'on voit ici évoluer un peu plus dans, dans la palette de sens qu'il a. Il apparaît, on peut le remarquer, régulièrement au début des trois préfaces que nous avons vues jusqu'à présent. Non seulement là, d'ailleurs, on le voit pratiquement dans toutes les préfaces de poèmes. On pouvait lui donner le sens de faits et gestes dans la préface du Kokinshu, vous vous en souvenez, d'obligation politique dans celle de Goshuishu. Or, il semble évident qu'on le voit ici s'approcher du sens d'activité langagière que lui donnera Jien, et qui sera repris ensuite par les commentateurs qui traiteront des poèmes bouddhiques. D'ailleurs, un grand savant comme Kamijo Akiji, je me fonde sur son édition du Senzai Wakashu, n'hésite pas à l'expliquer comme équivalent de waka dans une note concernant ce passage. Il n'en donne pas davantage de justification, mais pour lui, tout naturellement, ce kotawaza signifie ici waka. Je vous ai déjà suggéré que c'est au terme d'un processus assez long que l'on voit se confluer les deux sens. Nous pouvons donc considérer que la préface de Shunzei est le premier exemple clair de cette réorientation de kotowaza dans le sens d'acte de langage spécifique au Japon. Nous le reverrons tout à l'heure. On peut voir immédiatement après que si le waka est un acte de langage propre au Japon, il ne l'est pas comme une sorte de privilège génétique des Japonais, ce qui a parfois été la tendance dans les exacerbations nationalistes à partir du XVIIIe siècle. Kakari kereba, kono yo ni mumare to mumare, wa ga kuni ni kitari to kitaru hito wa, takaki mo kudareru mo, kono uta o yomazaru wa sukunashi. Ainsi se fait-il que tous ceux qui sont nés en cet âge, de tous ceux qui sont venus dans notre pays, qu'ils soient de haut lignage ou de basse extraction, il en est peu qui n'aient composé ces poèmes. C'est en quelque sorte le climat du Japon qui mène à la poésie, en tout cas le climat culturel, c'est ce que semble dire Shunzei ici. Cette précision est très intéressante, puisqu'il semble estimer que l'acte de langage japonais, kotowaza, n'est pas l'apanage d'une ethnie, mais plutôt d'une langue. Il dissocie clairement langue et appartenance ethnique et semble plutôt faire de la langue une nécessité géographique. On peut considérer que Shunzei mène à sa conséquence logique le fait que les Japonais eux-mêmes, écrivant des poèmes en chinois classique, rien n'empêche que l'inverse se fasse aussi. Et il a certainement en tête, non pas des cas individuels précis de son époque, c'est-à-dire des étrangers venant au Japon qui auraient été écrits en japonais, mais les nombreux exemples de grands noms issus de familles qui faisaient remonter leur généalogie à la Corée ou à la Chine. Nous en voyons l'illustration dès la phrase suivante. Shotoku Taishi wa Kataokayama no Mikoto o nobe. Dengyo Daishi wa Waga Tatsusoma no Kotoba o nokoseri. Yorite Yoyo no Mikado. Yoyo no Mikado mo kono michi o ba. Vous voyez qu'il y a très peu de caractères dans cette phrase et c'est toujours difficile de lire lorsqu'il n'y a pas les caractères chinois comme relais de lecture. Je vous traduis ce passage. Le prince impérial Shotoku a relaté l'histoire de Kataokayama. Le grand maître de la transmission de la loi a laissé les paroles sur le bois que j'ai dressé. Pour cette raison, comment les souverains de tous les âges renonceraient-ils à cette voie ? Après les dieux évoqués au début de la préface, Xunzi donne donc deux exemples que l'on pourrait qualifier de fondateurs. Le premier est le célèbre prince Shōtoku, mort en 622, et le non moins célèbre épisode de la rencontre narrée dans le Nihonshoki, les chroniques du Japon, qui eut lieu à Kataoka, non loin de Nara. Comme vous le savez, le prince trouva un gueux dans un état lamentable, mourant de faim. Il lui fit donner des soins et poursuivit son chemin pour apprendre le lendemain qu'il avait fini par mourir. La suite nous fait entrer dans le monde de la légende, avec de forts éléments taoïstes auxquels vint s'ajouter au fil du temps une réinterprétation bouddhique. Oui, vous savez que lorsque, bon, c'est une histoire bien connue, mais lorsque le prince donc, vient en aide aux misérables, mourant de faim et de froid, et le lendemain, il s'enquiert de son état, on lui dit qu'il était mort. Bon, et c'est à ce moment-là que le prince s'en désole. Et puis, quelques temps plus tard, sur un augure, on va voir la tombe de ce pauvre air. Et c'est là qu'est l'élément taoïste, n'est-ce pas ? On creuse la tombe et on s'aperçoit que dans le cercueil, il ne reste plus rien que ses vêtements soigneusement pliés. Et vous savez que c'est un thème taoïste très, très courant, du sennin, n'est-ce pas, de l'immortel, qui fait semblant en quelque sorte de mourir et qui ne laisse dans son cercueil, lorsqu'on a la curiosité d'aller le voir, son sceptre ou ses vêtements ou un témoignage quelconque de lui-même. Le corps n'est plus là parce qu'en réalité, il n'est pas mort. Et puis, donc ça, c'est l'élément taoïste dont on voit la présence dans le Japon ancien. Vous savez que c'est une vieille histoire. On a beaucoup étudié sur les rapports entre taoïsme et Shinto ancien. Et vous avez vraiment maintenant des études qui montrent que le taoïsme a une sorte de diffusion parallèle, cryptée, à l'intérieur des courants Shinto qui apparaissent comme les plus profondément japonais, donc vous voyez ce qu'il en est en réalité. Mais c'est une autre histoire. Alors, ce qui est très amusant aussi, c'est qu'après ces éléments taoïstes anciens, on a fait une autre interprétation du vieillard de Kataokayama. C'était en réalité Bodhidharma, n'est-ce pas, le fondateur de l'école Zen, Bodhidharma, qui serait venu en Chine au début du VIe siècle, qui était apparu à Shōtoku Taishi. Et ensuite, on a fondé un temple bouddhique, du nom de Bodhidharma, à l'endroit de la rencontre. Le Nihonshoki nous donne le poème que composa le prince à l'occasion, et qui est évidemment la raison de sa citation par Xunzi. Vous voyez, alors c'est un poème qui est très archaïque de facture. Il est un peu difficile à lire. Shinateru kataokayamani. Iniete. Koyasedo. Sonosta. Alors, il faut lire tachito. Ici, on aurait envie de lire tabibito. Tachito ou tabito. Sono tachito aware. Oyanashini. Nare. Narikemeya. Sasutake no kimi wa yanaki. Iniete. Koyasedo. Sono tabito. Tachito aware. Vous voyez que la facture archaïque se montre à la fois par la diction, le choix des mots, et puis aussi la composition du poème qui reprend comme une sorte de ritournelle, qui reprend à la fin les vers du début. On peut les traduire sur cette montagne de Kataokayama. Shinateru est un Makura Kotoba qu'on peut peut-être traduire aux marches brillantes, n'est-ce pas ? Il y était, mourant de faim, Koyasedu, gisant, épuisé, ce voyageur, aware, quelle pitié. Oyanashini nadikemeya, es-tu né sans parents? Sasutake no kimi wa yanaki, n'as-tu nul souverain qui te serve d'appui? Quel malheur, ce voyageur, gisant ainsi, mourant de faim. Vous voyez que c'est un poème de facture très archaïque et naïve. Vient ensuite le poème de Saicho, donc Saicho, le fondateur du Tendai, je ne reviens pas sur lui, n'est-ce pas, aussi célèbre que Kukai, qui est mort en 767-822, d'une facture quelque peu surprenante pour un waka, je vous l'ai déjà cité, mais qui est tout aussi célèbre et souvent cité dans les textes sur l'histoire du waka. Il est cité comme contre-exemple, parce que vous voyez qu'il n'a absolument rien d'un waka, il commence par un terme sanskrit extraordinairement long, Anoktara sammyaku sambodai no hotoketachi, wangatatsu somani myoga arasetamae. Donc, vous, Bouddha, Anuttara Samyak Sambodhi, n'est-ce pas? Anuttara Samyak Sambodhi en sanskrit. Donc, vous, Bouddha, parfaitement éveillé, Myoga Arasetamae, accordez votre bénédiction, Wangatatsu Soma, à l'arbre que je plante, c'est-à-dire, il est en train de parler du monastère qu'il est en train de fonder sur le Hiezan. Or, on sait que les biographies anciennes de Saicho faisait allusion à l'origine chinoise de sa famille. Saicho était réputé comme la famille de Saicho, pas lui-même, bien sûr, venant de Chine, et issu d'une dynastie continentale déchue. Cela explique sans doute pourquoi Shunze le mentionne ici comme exemple de ceux qui sont venus dans notre pays. Pour Shotoku Taishi aussi, d'ailleurs, nous avons à partir du milieu du 8e siècle, après la venue de Ganjin au Japon, vers 750, n'est-ce pas, l'apparition de l'idée selon laquelle le prince Shotoku serait la réincarnation du grand maître du Tendai chinois, Huise Eshi. C'est une conception un peu particulière de l'origine étrangère, mais cette légende était connue et souvent répétée. En tout cas, le fait que Shunze conclue avec la mention des souverains de tous les âges semble bien renvoyer aux origines royales de Saicho. Shunze poursuit en disant que les... Alors, je ne vais pas vous donner la citation ici parce que le texte est un peu compliqué. Je résume, n'est-ce pas ? Shunze poursuit en disant que malgré cela, rares sont encore les traces, ato, laissées par la constitution des recueils poétiques. Mais depuis le début du règne de l'empereur Go-Shirakawa, la capitale... Donc, l'empereur qui a commandité cette dernière anthologie, la capitale a retrouvé sa splendeur et s'apprête à prospérer pour 1000 années. Chitose Hisashikarubeki Migiri to Migaki Okitamai. Vous voyez, Chitose, donc Senzai, l'allusion directe au titre de l'anthologie, qui nous informe que le millénaire est à envisager vers l'avenir et non vers le passé. Les 33 ans du règne de l'empereur ont mené à une prospérité dont le renom s'est répandu jusqu'à l'étranger. Vivant une telle période de paix, les nombreux fonctionnaires et courtisans, et là on retrouve un peu le discours de Michitoshi, ont pu se laisser aller à leurs émotions. Munashiku sumusazu nasake oshi. Entre les matins de printemps où l'on contemple les fleurs et les nuits d'automne à regarder la lune, comment ne pas exprimer ses pensées et émouvoir son cœur ? Je vous donne quand même cette citation. Haru no hana no ashita, aki no tsuki no yube, omoi o nobe, kokoro o gokasazu to yukoto nashi. Ils le font tantôt à l'aide des instruments de musique, tantôt en rivalisant avec les paroles poétiques du Japon et de la Chine. Yamato Morokoshi no uta kotoba o arasou. Yamato Morokoshi no uta kotoba o arasou. Pour la première fois dans les trois préfaces que nous avons vues jusqu'à présent, allusion est faite à la relation entre les deux langues qui se partagent l'expression poétique du Japon. La rivalité dont parle Shunze ne semble cependant pas à première vue avoir lieu entre les deux langues, les commentateurs comprenant le passage comme concernant les joutes poétiques en chinois et en japonais. Ça serait donc plutôt les utahawase. Il est cependant tout à fait possible de le comprendre comme une description de la confrontation des deux modes d'expression. La suite montre que Shunze s'intéresse avant tout en japonais, sans approfondir la confrontation entre les deux langues. C'est donc ici « Shikishima no michimo, sakani no okorite, koto » Petite divergence dans les manuscrits entre Koto et Kokoro. Koto, Kokoro no izumi, inishie yori mo fukaku, Kotoba no hayashi, mukashi yori mo shigeshi. La voix de la poésie japonaise. Alors, voici encore une fois quelque chose de très intéressant. Shikishima no michi, qui vient utiliser pour la première fois. Shikishima, vous vous souvenez que c'est un lieu dit de la province du Yamato. Donc qui n'est pas maritime en quelque sorte, puis pris au sens propre en quelque sorte des îles déployées, c'est devenu une sorte de Makura Kotoba de la province de Yamato, puis du Japon en général. Et on est souvent interprété comme le Japon aux îles déployées qui déploie ces îles. Mais donc au lieu de dire Shikishima no Yamato no Kotoba no Michi ou Yamato no Waka no Michi, donc Waka no Michi, Yamato Uta no Michi, on comprime entre Shikishima et Nomichi. Donc la voix de Shikishima, c'est la voix Dewaka. Et c'est sans doute la première attestation de cette expression qui est souvent reprise après. Donc la voie de la poésie japonaise prit un essor éclatant. La source des paroles ou du cœur. Et vous voyez que si l'on voit que koto et kotoba est différencié, il se peut tout à fait que ce soit koto ici. Et donc les paroles d'un côté et ensuite les paroles poétiques de l'autre. C'est-à-dire la langue, en quelque sorte, et les paroles. Se fit plus profonde encore que dans l'Antiquité. La forêt des mots se fit plus luxuriante qu'autrefois. Donc, malgré le choix des éditeurs, je me demande s'il ne faut pas considérer la lecture koto comme la plus correcte, plutôt que kokoro, ce qui placerait plus radicalement les préoccupations de Shunsei dans le domaine langagier, bien que la phrase suivante semble confirmer la symétrie entre cœur et parole. Alors, vous voyez que c'est ici une phrase, une citation assez longue. Je ne vais peut-être pas vous la lire en entier parce que nous n'aurons plus. Bon, donc, je vais la lire très lentement en vous permettant de suivre. Ce faisant, Kokoni, l'empereur actuel, daigna écouter les feuilles des paroles des cercles d'amateurs. Alors, ce Michi Okonomu Tomogara. Vous voyez, Tomogara est repris souvent par Shunsei. Ça veut dire la troupe, la bande, n'est-ce pas ? Et j'ai choisi de le traduire par cercle. Ça fait évidemment allusion au groupement de lettrés de poètes. Donc, il daigna écouter les feuilles des paroles des cercles d'amateurs de la voix de l'âge actuel. Donc, c'est Michi Okonomu, c'est simplement la voix de la poésie. Et considérer aussi le cœur de ceux qui répondirent à la situation, orinitsukeru, n'est-ce pas, orinitsuketamaru, littéralement répondre à la situation. Et vous savez que vous souvenez peut-être que dès la préface de Tsurayuki, c'est un peu comme les Américains diraient maintenant pour le haïku, n'est-ce pas, le haïku moment, c'est le moment où l'on est touché par quelque chose d'extérieur, par l'occasion, ori, et que l'on fait un poème. Donc ce orinitsuku, c'est la réponse poétique à une stimulation venant de l'extérieur. Donc, considérer le cœur de ceux qui répondirent à la situation dans les âges anciens et ordonner que les poèmes qui avaient été laissés de côté dans la seconde anthologie des glanures poétiques, avec pour limite supérieure l'ère Shōryaku, Kami, n'est-ce pas ? Kami Shōryaku Koroi Yori, donc les années 990, et limite inférieure l'ère Bunji, qui va jusqu'à l'an 1187, c'est-à-dire l'âge où écrit Shunsei, fissent l'objet d'une sélection. Depuis le règne d'alors à nos jours, cela fait plus de 200 ans et 17 règnes qui se sont succédés. Vous voyez que vous avez ici Toshiwa Futamomochi Amari Niyoyobi. Futamomochi. Vous avez encore ce momochi au sens de momo, comme nous avions vu tout à l'heure. Cela fait donc plus de 200 ans et 17 règnes qui se sont succédés. Parce que de longues années ont ainsi passé et que d'à présent, il subsistera longtemps à l'avenir, ce recueil a été intitulé « Anthologie millénaire » encore une fois. Remarquons en passant, vous le voyez, n'est-ce pas, que vous avez « Suginikeru, Ima, Yukusaki », que les trois temps du bouddhisme servent de cadre à la pensée du préfacier, comme nous l'avions vu dans le texte de Michitoshi, dont c'était sans doute la seule allusion bouddhique. Ayant très brièvement expliqué que les deux précédentes anthologies des feuilles d'or et des fleurs rhétoriques ne comportaient que peu de rubriques, et avaient donc laissé nombre de poèmes de côté, Shunsei dit qu'il avait puisé parmi ses pièces. Et il poursuit. Je suis désolé encore, comme le temps presse, je ne peux pas vous lire en japonais. Je vais vous lisez donc en traduction. Lisez donc le texte pendant que je vous le traduis. Or donc, pour ce qui est d'étudier cette voie de la poésie, on n'étudie pas la vaste voie des textes, Hiroki Fumi no Michi, de la Chine et du Japon, Karakuni Hinomoto. On n'a pas non plus l'intelligence, Satorazu, de la profonde loi du parc Auxerre, Shika no Sono Rokuon, c'est-à-dire le parc de Benares où Shakyamuni commença à prêcher la loi en public, et du pic des aigles, Washi no Mine, c'est le Ryōjusen, n'est-ce pas, le Gritakuta Parvata, l'endroit où Shakyamuni prêcha le Sutra du Lotus. Vous avez les deux termes de la prédication du Bouddha de Shakyamuni pendant sa vie. Sans même sortir des seules 47 lettres du syllabaire, donc des katakana, des hiragana, et kana en général, la coutume s'est instaurée d'exprimer ce que l'on pense en son cœur, en s'en remettant aux paroles, sous-entendu japonaises. Pour cette raison, ceux qui ont pu aligner 31 lettres en leur poème, les waka donc, ont dépassé, se figure-t-il, le tréfonds de l'octuple nuée d'Izumo et ont pénétré au-delà des augustes paroles du Yamato aux îles déployées. L'octuple nuée d'Izumo, Izumo Yakumo no Soko, donc c'est une allusion directe évidemment au premier poème de Susanoo no Mikoto, n'est-ce pas, sur le Yaegaki, l'octuple haie, l'octuple nuée qui se lève sur l'octuple haie d'Izumo, pour y mettre sa parèdre. La simplicité de l'écriture syllabique japonaise, donc, est trompeuse. Vous voyez que Sunze dit que pour beaucoup, il suffit de cette espèce de facilité de l'écriture japonaise, des kana, permet de court-circuiter les longues années d'études du bouddhisme et des classiques chinois et de s'exprimer tout de suite en 31 syllabes et 47 signes syllabiques pour dire ce que l'on veut. Mais ce n'est bien sûr qu'une impression que Sunze va dissiper. Alors, ce passage, maintenant, est très complexe. Je voulais donc découper en sentences, en propositions. Je vais vous les lire très lentement aussi, parce que nous n'avons plus le temps non plus de le lire. Mais vous allez voir qu'il se pose en réalité la question du jugement sur les poèmes. Quels sont les bons poèmes? Quels sont les moins bons poèmes? Et pourtant, en réalité, s'il est quelque chose dont on peut dire « plus je l'entaille, plus elle est dure, plus je la contemple, plus elle est haute », c'est une citation encore une fois de Confucius, du Longo de Confucius, et là c'était un disciple de Confucius, Ganyen, c'est pas le fameux disciple Yan Yuan, qui parlait de la doctrine de Confucius lui-même. Il est ironique de voir Sunze reprendre quelque chose qui est l'apex de la culture internationale de l'époque, le confucianisme, pour l'attribuer à la voie bouddhique. Mais donc, si c'est une chose dont on peut dire « plus je la contemple, plus elle est haute », c'est bien cette voie de la poésie japonaise, Yamato Uta no Michi. Bien que les fleurs dans les forêts du printemps, les feuilles dans les montagnes d'automne, peuvent sembler variés comme les brocarts et sonores comme le jade, il arrive bien souvent que les vieux arbres ne se redressent plus et que les roseaux aux formes étranges de la baie de Naniwa soient fort laids en leur contorsion. Donc ça veut dire que s'il y a de bons poèmes, il y en a aussi de tordus, c'est pas, donc de mauvais. Malgré cela, que ce soit par égard pour les amateurs, encore une fois, Konomu Kokorozashio, n'est-ce pas, que ce soit par égard pour les amateurs ou pour ne pas laisser s'interrompre cette voie, des paroles venant de modestes fenêtres tuilées ou de cabanes de branchages, tant qu'elles sont dignes d'être vues, c'est-à-dire lues, et ne répugnent pas à l'oreille, on n'en a laissé échapper aucune. On a consigné plus de 1200 pièces en 20 livres. Ce passage est rédigé dans un style remarquablement macaronique. Son intelligence n'est pas facilitée par les variantes textuelles, et j'en ai donné ici une traduction qui tient compte du plus vraisemblable, et aussi en m'aidant du texte dont je vais vous parler tout à l'heure, qui reprend sous une forme beaucoup plus simple l'essentiel de ce qu'il dit ici. Sunze n'hésite pas à appliquer à la voie de la poésie japonaise ce que l'un de ses grands disciples disait de l'enseignement de Confucius. Plus on la scrute, plus grande et difficile à saisir elle s'avère. La longue période qui commence avec « bien que les fleurs dans les forêts du printemps » signifie tout simplement que malgré le plaisir que l'on peut trouver à la lecture de certains poèmes, beaucoup d'autres sont mal formés, et que pour en trouver de beaux, afin de faire les délices des amateurs et assurer ainsi la pérennité de la tradition poétique, le compilateur n'a pas hésité à aller chercher les œuvres de bons poètes, aussi humbles qu'ils puissent être. C'est donc l'intention générale de son entreprise que Sunze exprime dans ses phrases au style contourné. La suite aborde la question du statut des rédacteurs ou compilateurs des anthologies. Et là, c'est un passage très intéressant. Depuis, encore une fois, je vous lis la traduction. Depuis l'Antiquité, dans le cercle, Choku Oketamawarite, etc. dans le cercle de ceux qui ont reçu l'ordre impérial de compiler les anthologies. Certains étaient de noble naissance, d'autres étaient de rang inférieur. Mais tous avaient longuement étudié cette voie et avaient une profonde intelligence de son sens, Kokoro. Et ils s'acquittaient avec diligence de leur mission. Or, parmi eux, il ne se trouve rien qui ait été compilé par des gens qui auraient fui derrière les portes de pain d'un ermitage. Matsu no Toboso ni Nogare. Ou dont les manches sont salies de mousse fanée. Koke no Tamoto ni Shioreta no Mono. Cependant, il y eut un moine d'Ujiyama, du nom de Senki, qui, ayant reçu l'auguste ordre du souverain, rédigea un art, Shiki, de la poésie japonaise. Pour ce qui est d'écrire un art poétique et de compiler une anthologie, il y a de nos jours, Ima, une ressemblance, Nazurae, avec ses traces laissées dans le passé, Kanomukashi no Ato. De plus, cela fait plus de 70 ans que je m'occupe de la voie de la poésie. Waka no Ura, n'est-ce pas ? Vous avez... Pardon, je pense que c'est... Voilà, excusez-moi, il fallait continuer ici, n'est-ce pas ? Donc, cela fait plus de 60... J'ai séparé la citation en deux, elle était si longue. Cela fait plus de 70 ans que je m'occupe de la voie de la poésie. Et vous voyez que Waka no Ura no Michi, le jeu de mots, la baie, la plage de Waka, dans le Wakayama, et c'est évidemment les Waka aussi, et plus de 60 ans que je suis au service de mon souverain. C'est sans doute pour cela que j'ai reçu l'ordre de ratisser et rassembler les poèmes. Vous avez encore la même expression que nous avions vue dans le Shubishu, Moshi Ogusa, n'est-ce pas, Okaki Atsumu. C'est que j'ai reçu l'ordre de ratisser et rassembler les poèmes, paroles de divers auteurs. Voilà enfin une remarque de Shunze, juste à la fin de sa préface, qui devrait nous donner, malgré sa grande discrétion, quelques indications, aussi minces soient-elles, sur l'état d'esprit, l'intention qui présida à sa compilation, ou qui du moins orienta son choix dans une mesure qu'il nous faudra apprécier plus tard. Il y fait en effet observer que jusqu'à lui-même, tous ceux qui ont reçu mandat impérial d'établir une anthologie étaient hommes de cour et laïcs. Il n'y avait ni moine ni ermite, nous dit-il en employant deux périphrases faites d'allusions poétiques. J'en profite pour attirer l'attention sur la première de ces allusions qui renvoie au roman de Genji et à la vie érémitique du moine qui est l'auteur du poème. Une illustration de la grande vogue que connaissait le roman à la fin de la période de Heian, qui voyait l'établissement de son édition définitive. Et vous connaissez le rôle de Teika, n'est-ce pas, Fujiwara Teika, le grand poète Teika, dans l'édition du Genji, et ce n'est autre que le fils de Shunze. Shunze ne trouve qu'un exemple d'un moine qui s'illustra dans l'édition poétique, celui de Kisen, à l'époque du Kokinshu. Donc vous aviez les caractères tout à l'heure, n'est-ce pas ? En invoquant aussi l'ouvrage qu'il lui a attribué sur l'art poétique, et fait de cet exemple un précédent pour lui-même. Il revendique donc, pour employer un mot à la mode, le statut de religieux bouddhiste, et présente comme une innovation le fait qu'un moine se voit confier la commission d'une anthologie. Que l'anthologie millénaire ait été présentée en 1187 ou 1188, alors que Shunze avait 74 ans, le fait est qu'il était entré dans la vie religieuse en 1176, plus de 10 ans auparavant, alors qu'il avait 62 ans. La commission impériale ayant été donnée en 1183, c'est donc en tant que moine que Shunze s'est acquitté de sa charge du début jusqu'à la fin. Je ne sais ce qui est le plus remarquable dans ce passage, de l'explicitation de son statut monastique dans une préface impériale ou de l'absence de conséquences évidentes qu'il tire de ses remarques dans le corps même de sa préface. On ne peut en revanche qu'observer la grande insistance que marque Shunze tout au long de ce texte sur la notion de langue ou parole, inlassablement répétée sous plusieurs formes, que ce soit kotonoha, mikoto, kotoba, koto, etc., qui semble parfaitement indissociable de la notion de poésie japonaise. Il est vrai que les deux termes sont rapprochés dès l'époque du Kokinshu, mais l'insistance de Shunze mérite d'être relevée. Cependant, il me semble que les commentateurs n'aient pas prêté attention à la formulation utilisée par Shunze dans le rapprochement qu'il propose entre Kisen, comme illustre précédent, et lui-même. Il écrit en effet « Pour ce qui est d'écrire un art poétique et de compiler une anthologie. » Shiki o tsukuri, shu o erabu, ce sont les premiers mots ici. utilisant deux termes distincts, shiki et shu, pour résumer l'activité littéraire de Kisen et donc la sienne. On n'attribue qu'un seul ouvrage à Kisen, le Wakasakushiki, qui se présente tant comme un art poétique que comme une anthologie. Mais en quoi pourrait-on considérer que Shunze se soit illustré dans les deux catégories au moment où il écrit cette préface ? Tout le monde comprend bien que son travail de compilateur de l'anthologie millénaire le situe de plein droit dans la catégorie des auteurs de Shu, c'est pas ici. Mais qu'en est-il des Shiki ? Comme cette question n'est pas abordée par les commentateurs, je dois me risquer à y répondre par moi-même. Et la réponse que je proposerai est assez simple. Shunze est certes connu pour avoir réalisé l'anthologie qui nous intéresse aujourd'hui. Mais sa notoriété est bien plus grande comme auteur du Kodai Futeisho que nous avons mentionné plus haut. Sa première version est réputée avoir été réalisée en 1197, 10 ans donc après la présentation de l'anthologie à l'empereur. Si l'on estime que ce qu'écrit quelqu'un à propos de son œuvre mérite quelque attention, et qu'un auteur sait mieux que personne ce qu'il a écrit, on est bien obligé de comprendre que Shunze s'attribue deux œuvres, un art poétique et une anthologie. Même si nous ne savions rien de ses autres travaux, la simple lecture de ce passage nous inviterait à penser que Shunze a écrit quelque chose qui entrerait dans la catégorie des shiki, sans que nous puissions le vérifier. Or, nous savons qu'il a écrit un autre texte, et nous avons la chance de le posséder, sans qu'il y ait de doute sur son authenticité, à différence de celui attribué à Kisen, le Wakasakushiki, est considéré comme un apocryphe de la fin de l'époque de Heian. La conséquence de cette constatation paraît assez sûre. Nous sommes conduits à penser que Shunze, 10 années avant la date de sa rédaction définitive, avait déjà commencé de travailler à un texte sur la théorie poétique, n'est-ce pas ? Qu'il fasse une allusion aussi explicite dans cette préface nous amène à penser que son texte circulait déjà sous une forme sans doute plus simple. Le texte du Kodai Futeisho, tel que nous le connaissons à présent, a été écrit par Shunze à la demande de la princesse impériale Shikishi Shokushi, 1149-1201, fille de l'empereur Go-Shirakawa et poétesse de renom, dont 9 poèmes sont insérés dans le Senzaishu et 50 dans le Shinkokinshu. Elle fut comme Senshi avant elle, vous vous souvenez de Senshi Naishindo, la princesse Vestale du sanctuaire de Kamo, et l'entretint aussi des rapports étroits avec le fils de Shunze, l'illustre poète Teika, 1162-1241. Rien ne nous empêche de penser que Shunze avait déjà commencé de rédiger des notes concernant ses idées sur la poésie, et le fait qu'il les mentionne dans la préface de sa grande anthologie officielle, celle qui devait lui assurer une gloire immortelle, comme il ne l'ignorait pas, indique qu'une telle mention ne devait pas étonner ses contemporains. Quoi qu'il puisse en être de cette question, il vaut à l'évidence la peine de voir ce que Shunze écrivait sur le Waka à peine 10 ans après la publication de son anthologie, et ce dont on peut penser aussi que ça avait été fait avant. Ce texte est à présent bien connu hors du Japon, grâce au livre classique de William Lafleur, The Karma of Words, auquel je vous renvoie. Paru en 1983. Il ne l'est peut-être pas suffisamment en français, mais je voudrais souligner son importance en ce qu'il constitue une tentative, on ne peut plus explicite, d'enchâssement dans la doctrine bouddhique de l'activité poétique japonaise. En tant que religieux de l'école Tendai, Shunze se réfère tout naturellement à la pensée, ou plutôt au système doctrinal élaboré par le grand patriarche de l'époque de l'école, le moine chinois Zhuyi, Chigi en japonais, du VIe siècle, et dont on a aussi la première partie du surnom, Tendai Daishi, n'est-ce pas, le grand maître du Tendai. Il reprend l'une des principales caractéristiques de la scolastique Tendai, connue sous le nom de Shikan, n'est-ce pas, que nous traduisons par quiétude et contemplation, donc c'est une méthode de méditation, dont l'origine est très proche du Zen. Je ne peux pas, bien sûr, intervenir là-dessus ici, mais Zen et Shikan, les deux termes sont pratiquement interchangeables chez Qingyi, au début, donc au VIe siècle. Il faut bien que nous ayons cela présent en tête. Donc, il en fait le principe directeur de la compréhension de la poésie Tendai. Je vous donne ici ce texte. Ainsi est-il écrit par le grand maître Zhang Han, Shouan, c'est-à-dire c'est le disciple de Tendai Daishi, qui a rédigé la préface du texte dont nous parlons maintenant. Donc, Ainsi est-il, au début, est-il écrit dans la, au début de l'ouvrage appelé La somme de contemplation du Tendai, Tendai Shikan, c'est une autre appellation de, du Makashikan, n'est-ce pas, que j'ai traduit par la somme de quiétude et de contemplation, ou la somme de contemplation. Donc le début de cette très célèbre de cette préface et donc du, Tendai, du Makashikan, Shikan no Myōjō Narukoto, Zendai do Zendai mo imada kikazu. Le calme, la calme clarté de la quiétude et de la contemplation fut inouïe dans les âges antérieurs. Une fois cela entendu, on peut mesurer l'immensité de la profondeur de ce sens, qui résonne en toute sa majesté et nous donne un point sur lequel nous appuyer pour réfléchir de même sur les qualités bonnes ou mauvaises et la profondeur des poèmes japonais et les exposer, aussi difficile que cela soit, en mots. Vous voyez cette phrase très importante de la fin. Kono uta no yoki ashiki fukaki kokoro wo shinan kotomo. Donc le Makashikan va servir de critère de choix, de jugement de la poésie japonaise. Son intention est donc de considérer la poésie japonaise à la lumière de la pratique de méditation, shikan, de l'époque Tendai, qui est caractérisée dans la somme par les deux termes de clarté et de tranquillité, myōjō. Vous voyez bien que c'est la disposition du poète, la disposition d'esprit du poète en même temps. Shunsei fait ensuite un parallèle qui nous paraît audacieux entre la transmission de la loi bouddhique et la transmission de la voie de poésie, de la poésie. Cette somme, le Makashikan, élucide aussi les degrés de transmission de la loi de Bouddha et apprend aux hommes la façon dont la voie de la loi fut transmise. Le grand éveillé, Daikaku, c'est-à-dire le Bouddha, l'annonça à Mahakashyapa. Kashyapa l'annonça à Ananda. Ainsi transmise par degrés jusqu'à Singha, Singha, donc vous voyez que c'est Shishi. Shishi, on a l'impression que c'est à la cinquième ligne, n'est-ce pas ? C'est maître et disciple, mais en réalité, il faut mettre la clé de l'animal devant Shi, c'est le Singha. Shishi, c'est le lion, et lion, c'est la traduction du sanskrit Singha. Donc le dernier de la liste donnée par Chingyi dans sa liste de la transmission. Donc jusqu'à Singha, il y eut 23 personnes, 23 générations. De la même façon que surgit un sentiment de respect à entendre les degrés de transmission de cette loi, on ne peut que remarquer la façon dont la poésie japonaise s'est transmise depuis le passé et que sont apparus les recueils et anthologies, commençant avec le Manyōshū, puis le Kōkin, Gosen, Shūi. Cependant, de la première sont les profonds dogmes des Écritures et de la bouche d'or du Bouddha, alors que la seconde apparaît comme les distractions de propos badins. Vous voyez ici, Fugen Kigo, Fugen Kigo, c'est évidemment la même chose que Kyōgen Kigo, dont je vais reparler à l'instant, n'est-ce pas ? Et pourtant, que leur profonde teneur soit manifeste et qu'il soit un lien qui mette en communication avec la voix de Bouddha, en raison de l'identité des passions avec l'éveil, Bonno Sunawachi Bodai, nous le savons par ce que dit le Lotus, citation du Sutra du Lotus, s'il explique les livres profanes, les activités de subsistance. Alors, la citation est tronquée, je vous la donne un peu plus complète. S'il explique les livres profanes, les maximes politiques et règles de vie, les activités de subsistance, ce sera toujours conformément à la loi correcte, Shōbō. Et le Sutra de Sage Universel, qu'est-ce alors que le péché ? Qu'est-ce alors que le mérite ? Péché et mérite n'ont pas de sujet. La pensée de moi étant en soi vide. En conséquence, je soutiens à présent que la profonde voix de la poésie japonaise, en ce qu'elle est analogue aux trois substances, santai, vous voyez qu'il faut, il a écrit mitsu no karada, mais il faut corriger par mitsu no akirame, mitsu no tai, ce sont les trois vérités donc. Elle est analogue aux trois vérités de la vacuité, ku, de la conditionnalité, ke, et de la médianité, chu. Et qu'elle permet de communiquer, kayowasu, avec la voix bouddhique. Ce passage est célèbre à juste titre, et le commenter en détail prendrait trop de temps. On remarque avant tout que Shunsei n'hésite pas à faire appel à l'un des textes les plus prestigieux de la pensée bouddhique, considéré même dans le Tendai comme l'ouvrage le plus ardu, figurant en place ultime dans le curriculum des études, pour justifier la profondeur de la voix de la poésie japonaise. Non seulement la justifier, mais la mettre en relation d'égalité, kaiowasu, avec la voix bouddhique. Il esquisse tout d'abord une analogie entre le mode de transmission des deux voix. Leur mise en parallèle revient à conférer une antiquité disproportionnée au Yamato Uta. C'est une propension générale que de vouloir donner la plus grande antiquité possible à un texte pour le rendre d'autant plus vénérable. Nous l'avons vu tout à l'heure lorsque Funya no Arisue répondait à l'empereur Jōkan à propos de l'âge du Manyōshū, alors que le recueil datait d'à peine un siècle. Ici encore, c'est le même texte qui est mis en face de Mahakashyapa comme point de départ de la tradition, c'est-à-dire le Manyōshū, alors qu'à l'époque Heian, on estimait que le Bouddha avait vécu quelques mille ans auparavant. Même si le Manyōshū pouvait se targuer d'une antiquité de quatre siècles, on était encore loin du compte. Mais l'important est que cette mise en harmonie des deux voix permette à la poésie japonaise, dont Shunzei rappelle au tout début de son Futeisho, comme dans la préface de son anthologie, qu'elle remonte à l'âge des dieux, d'être présentée comme une activité salvifique. Et ce, en dépit du reproche qu'on lui a fait, en reprenant la célèbre expression du poète chinois Pochui, n'est-ce pas, Hakkyoi, Hakurakuten, d'être des propos fous et des paroles spécieuses, Kyōgen Kigyo. Kigyo ou Kigo, la lecture Kigyo est plus Kaon, Kigo c'est une lecture Gon. Je vous conseille, si vous voulez faire semblant d'être au courant, de lire Kigyo. D'être une activité futile. Pour répondre à ce reproche, Shunzei rappelle tout d'abord une proposition encore une fois fameuse de la préface de la Somme de Contemplation. Les passions ne sont pas autre chose que l'éveil. Bonno Sokubodai. Il s'agit là de l'une de ces identifications d'opposés qui se trouvent dans la Somme, comme le samsara et le nirvana, shoji sokunehan, l'ignorance et la nature de loi, mumyo sokuhosho, les passions sur la prajna, c'est bonno sokuhanya, etc. Destinées à démontrer l'inanité de toute position contradictoire et discriminante. Remarquons que cette coincidentia oppositorum ne peut avoir lieu qu'à la lumière de la troisième des vérités que nous allons voir à l'instant. Shunzei fait ensuite appel à l'autorité du lotus pour affirmer que toute expression écrite, même profane, sera toujours conforme à la loi correcte. Il faudrait ajouter que le sujet de la phrase dans le sutra, ce sont les fils et les filles de bonne famille, c'est-à-dire zennan zennyo, n'est-ce pas ? C'est-à-dire ceux qui se destinent à vivre selon la loi bouddhique, en ayant accepté de propager l'enseignement du lotus. L'argument est renforcé par une citation du sutra de Samantabhadra, le Fugengyo, qui défait la distinction entre activité pécheresse, tsumi, et méritoire, fuku, du point de vue de la vacuité de nature propre. Remarquons que la lecture explicative japonaise qui est donnée de cette proposition est un peu différente. Le chinois dit gashin jiku, et on le fait lire wangagokoro onozukara munashi ou bien ku nari. Et il peut se comprendre alors wanya kokoro munashi, n'est-ce pas, mon esprit, mon cœur est vide de pensée définie. C'est-à-dire, c'est encore une fois, c'est la disposition d'esprit du poète. Il essaye, en contemplant la nature, de s'oublier lui-même et d'exprimer, de faire en quelque sorte entrer la nature dans son kokoro. Cette dernière citation permet à Shunzei d'affirmer que les poèmes japonais doivent se lire selon les trois vérités du Tendai. Inutile, bien sûr, d'entrer ici dans une explication détaillée de ce dogme important entre tous. Remarquons seulement qu'il apparaît comme un critère de jugement pour résoudre le dilemme qui semble tourmenter notre moine dans sa préface comme dans son traité poétique. Comment distinguer les bons poèmes, les mauvais poèmes et les poèmes profonds ? Kono ukta no yoki ashiki fukaki kokoro o shiran koto. Il apparaît alors que chacune des trois vérités peut se rapporter à chacune des trois qualités. Les bons poèmes dépendent de la vérité sur la vacuité, ku, les mauvais de la vérité sur la conditionnalité, ou la phénoménalité, ke, et les profonds de la vérité sur la médianité, chu. Il est dommage que Shunzei n'aille pas plus loin dans sa démonstration, en nous laissant le soin de la mener à sa conclusion. Nous verrons la semaine prochaine, et au cours d'après, s'il est possible, d'accorder le choix des poèmes de la rubrique des dieux et de celle des bodhisattvas à ces propos fort élevés. On le retrouve des préoccupations qui seront exprimées par d'autres auteurs de l'époque. Je voudrais simplement vous inviter à vous rappeler, pour conclure, que le terme de divertissement, tawabure, que nous trouvons ici à propos de l'activité frivole, c'est pas tawabure, que nous trouvons à propos de l'activité frivole qu'est la poésie se trouve aussi dans le poème de la courtisane Miyaki que nous avons vu au dernier cours. En mettant sur le même plan d'activité le Asobitawabure des courtisanes et des bodhisattvas, elle illustrait parfaitement la sentence de la somme de contemplation « Les passions ne sont autres que l'éveil ». Je vous remercie et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder cette fois la substance même de ces poèmes. Merci.